Vous écoutez Get Abstract, la plus grande collection de résumés au monde.
Cet enregistrement audio est un résumé du livre « Pour réussir, oser échouer » de Michel Poulart. L'échec n'est, de loin, pas l'apanage des nuls, car de nombreuses personnalités admirées du public telles que Steve Jobs, Richard Branson ou J.K. Rowling ont essuyé de nombreux revers dans la vie avant d'atteindre le statut qu'on leur connaît actuellement. Alors, pourquoi considérons-nous les échecs comme des étapes douloureuses dans notre vie? Et pourquoi sommes-nous encore si nombreuses à éprouver de la réticence, voire de la honte à en parler? Michel Poulart, conférencier international et expert en optimisme, décrypte les mécanismes qui conditionnent le regard que nous portons sur l'échec, dont certains sont profondément ancrés dans notre culture et notre système éducatif. L'auteur suggère de nombreuses pistes pour surmonter notre peur de l'échec et l'envisager sous un angle nouveau, celui de l'opportunité d'apprendre pour mieux rebondir et aller de l'avant. Jack Welch, patron de General Electric, n'a-t-il pas dit un jour « Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué et je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien tenté ». Motivant, n'est-ce pas? Commençons par le premier point à retenir. La peur de l'échec est profondément ancrée dans notre éducation et dans notre culture. La peur de l'échec trouve-t-elle son origine dans notre fonctionnement physiologique ou est-elle profondément ancrée dans la culture et le système éducatif? L'observation des différentes cultures dans le monde semble plutôt pencher en faveur de la deuxième théorie. Tout d'abord parce que certaines civilisations privilégient la culture de l'échec, contrairement à d'autres qui préfèrent la culture de la gagne. En France, la notion d'élitisme imprègne fortement le système éducatif et les personnes surdiplômées et issues d'écoles prestigieuses y sont considérées comme plus méritantes et plus intelligentes que les autres. Cette croyance tenace trouve son fondement dans l'histoire du système éducatif français. L'empreinte de la religion au Moyen-Âge et à la Renaissance était telle que les enseignements, parfois culpabilisants, notamment à l'égard des possessions matérielles, ont donné lieu à des interprétations erronées de certaines notions, telles que l'humilité ou la richesse. Sous Louis XIV, l'enseignement dans les grandes villes était confié à des ordres religieux, ce qui a favorisé la création de collèges élitistes et sélectifs. Sous Napoléon Bonaparte, les écoles ont été tenues de respecter les principes de l'Église catholique. Les échecs y étaient non seulement pointés du doigt, mais également sanctionnés, parfois sous la forme d'humiliation publique. Dans ce contexte éducatif où la réussite s'évalue uniquement par les notes, les élèves ont, de génération en génération, été conditionnés à devenir des chercheurs de bonnes réponses et à esquiver le risque par crainte d'échouer. Ce rapport complexe à l'échec freine notre volonté de nous lancer, car nous avons peur de ne pas être à la hauteur. En France, il y a quelques années, si votre entreprise faisait faillite, vous étiez fiché et il vous était impossible de relancer un nouveau projet professionnel. Il existe même une base de données, le FIBEN, qui évalue la capacité des entreprises et des dirigeants à respecter leurs engagements financiers. Les entrepreneurs qui avaient connu un seul dépôt du bilan, voire deux au cours des cinq dernières années, y figuraient également. Fort heureusement, la prise de conscience que le risque fait partie de la vie de l'entreprise a permis de ne plus discriminer ces derniers. Cessez d'avoir peur de l'échec, faute de quoi vous ne pourrez jamais vous lancer. Au lieu de vous demander comment réussir, interrogez-vous plutôt sur les perspectives de développement personnel que vous apporterait un échec et sur les nouvelles opportunités qu'il vous offrirait. Acceptez l'échec comme un élément de votre vie et si vous avez l'impression de toucher le fond, faites comme à la piscine. Donnez un coup de pied énergique pour remonter à la surface. Le deuxième point à retenir explique pourquoi vous devez vous débarrasser du poids des croyances limitantes et des superstitions. Croire en votre succès conditionne votre cerveau à cette éventualité et augmente vos chances d'y parvenir. Pour cela, vous devez apprendre à votre cerveau à fonctionner en mode positif, en modifiant vos connexions neuronales afin de visualiser votre succès. Nous sommes cependant nombreux à nous laisser décourager par des croyances et des coutumes qui sapent notre énergie et freinent nos actions. Les superstitions, par exemple, même si elles n'ont aucun fondement rationnel, orientent souvent nos choix et nos décisions. Pourtant, nous ne devons pas nous laisser déborder par ces croyances paralysantes, car nous avons tous en nous la capacité d'interpréter ce qui nous arrive selon notre vécu, notre estime de soi et notre éducation. Agir ainsi nous octroie un pouvoir formidable, celui de décider de construire, transformer ou saboter nos expériences de vie. Croire que notre vie est guidée par une main invisible ou que nous devons tenir compte de certains signes avant d'entreprendre telle ou telle action est une erreur. Cette approche contribue à nous déresponsabiliser et à saper notre confiance en nous-mêmes. Pour garantir sa survie, l'être humain a besoin de cultiver une vision positive de la vie, faute de quoi l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Si le destin n'est peut-être qu'une superstition, l'attentisme quant à lui ne provoque ni la chance ni la réussite. Aussi, efforcez-vous d'être responsable de vos résultats sans attendre l'intervention d'un tiers. Agir de la sorte contribuera à stimuler votre cerveau pour trouver les réponses et les solutions les plus adaptées. Le troisième point à retenir conseille de vous concentrer sur votre objectif et de tirer les enseignements en cas d'échec. Nous partageons tous un point commun, nous avons peur de l'échec. Toutefois, les réactions suite à un échec diffèrent d'une personne à l'autre. De plus, nous avons davantage tendance à croire que nous allons échouer plutôt que d'envisager la réussite. Or, pour réussir, nous devons croire intensément à cette réussite et nous projeter dans un scénario gagnant, quoi qu'il arrive. En un mot, nous devons faire preuve d'enthousiasme pour espérer dépasser notre peur de l'échec. Notre perception de l'échec est en effet conditionnée par des biais cognitifs qui fonctionnent comme les filtres sur Instagram. Un filtre pessimiste vous poussera à amplifier un événement de manière négative, alors qu'un filtre optimiste vous aidera à retenir le côté positif d'une situation. Ces filtres influencent notre mode de pensée sans que nous en ayons conscience. Si le biais d'optimisme, par exemple, nous incite à sous-estimer le risque, il contribue en revanche à augmenter notre bien-être. Pour Tali Sharot, professeur en neurosciences et en psychologie à l'University College de Londres, le fait de croire en notre capacité à atteindre un objectif nous incite à agir avec résolution et énergie pour y parvenir. Ce phénomène est connu sous le terme de prophétie autoréalisatrice. Si la peur de l'échec vous paralyse, plutôt que de la combattre, efforcez-vous de transformer la perception que vous en avez. L'échec n'est pas une fatalité, en revanche, abandonner est une vraie défaite. Certes, certaines choses, réussites ou échecs, ne peuvent s'expliquer. Toutefois, leur dénominateur commun reste la prise de décision. Contrairement aux personnes pessimistes, les optimistes ont la capacité de donner un sens positif aux échecs qu'ils ont vécus. Les personnes qui réussissent le mieux ont souvent connu beaucoup d'échecs dont ils ont su tirer les enseignements grâce à une vision précise de l'objectif à atteindre. La clé de leur réussite, c'est oser agir, même si l'idée ou le projet n'est pas totalement abouti. À la fin des années 2000, je caressais le rêve de devenir conférencier professionnel, malgré les réticences de mon entourage. Après avoir suivi une formation de coach et sans aucune expérience dans l'organisation de conférences, j'ai décidé de franchir le pas en organisant ma toute première conférence. Même si la prestation était loin d'être parfaite, je fus félicité pour mon travail et encouragé à continuer dans cette voie. Les trois conférences suivantes furent un échec, mais au lieu de m'en tenir à ce constat, je décidai de revoir ma stratégie en développant ma notoriété afin d'être reconnu comme un expert du domaine. Ne laissez pas votre peur d'échouer paralyser vos actions. Acceptez le fait que certaines situations sont hors de votre contrôle, réfléchissez en termes d'excellence et non de perfection, et envisagez l'échec comme une opportunité de progresser et d'apprendre. Le quatrième point à retenir montre qu'il est plus dommageable de ne pas prendre de risques que d'en prendre. Même les plus grandes entreprises ont connu des fiascos retentissants. Comme les pilotes de chasse de l'armée américaine, n'attendez pas de bénéficier de 100% de conditions parfaites pour passer à l'action. Ne cherchez pas non plus à évaluer votre taux de réussite possible. Contentez-vous de vous lancer si vous avez suffisamment d'éléments pour le faire. Sachez également que la réussite n'a rien à voir avec la chance, car ce qu'on appelle les gens chanceux, loin d'être nés sous une étoile bienveillante, font preuve d'un état d'esprit commun, l'optimisme d'action. En outre, ne commettez pas l'erreur de croire qu'une quelconque puissance divine pourrait contribuer à votre réussite. Certes, il ne vous est pas interdit d'invoquer Dieu ou l'univers, mais veillez à faire suivre votre prière d'une action concrète, quelle qu'elle soit. Les jeunes appartenant aux générations Y et Z nous donnent un bel exemple de rapport décomplexé avec l'échec. Une étude montre qu'ils sont 77% fervents adeptes de personnalités inspirantes à être prêts à créer leur propre entreprise. De Steve Jobs à Elon Musk en passant par Mark Zuckerberg et J.K. Rowling, le dénominateur commun de ces personnalités hors du commun est qu'elles ont toutes connu de nombreux échecs, qui sont devenus une véritable source d'inspiration pour leurs admirateurs. Ne laissez pas vos craintes bloquer votre action, exploitez-les plutôt pour entretenir votre vigilance et votre attention. L'échec n'est pas le propre des individus, car même les entreprises les plus prestigieuses ont connu un jour ou l'autre des échecs cuisants. Si ces entreprises existent encore aujourd'hui, c'est qu'elles ont su capitaliser sur leurs échecs en utilisant ceux-ci comme autant de précieux enseignements. Elles appliquent le principe du « fail fast, learn fast, succeed » « échoue vite, apprends vite, réussis » pour rebondir et faire face à l'adversité. L'échec du lancement de la Mercedes Classe A en 1997 est un bel exemple de résilience face à l'échec. Soumise au test de l'élan par un magazine suédois, la voiture a fini sur le toit, poussant Mercedes à stopper les ventes et la production peu de temps après sa commercialisation, un échec retentissant pour la marque allemande. Réunis en cellule de crise, les dirigeants et divers responsables sont parvenus à trouver la solution du problème avec le développement de l'ESP, un système de contrôle de la trajectoire auparavant réservé aux voitures de luxe. L'image de la marque à l'étoile, loin de pâtir de l'échec initial, en est ressortie plus forte qu'avant le test de l'élan. À l'inverse, d'autres entreprises se rendent coupables de l'échec d'orgueil. Convaincues de leur toute-puissance et de leur succès passé, elles peinent à s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies. Nokia, Kodak, ainsi que le Minitel de France Télécom sont autant d'exemples d'échecs dus à l'orgueil et au refus de se remettre en question. Le cinquième point à retenir rappelle que si vous faites toujours la même chose, vous ne devez pas vous attendre à obtenir des résultats différents. Nombreux sont ceux qui, après de multiples échecs, finissent par se décourager et penser qu'ils ne réussiront jamais rien. Si les scientifiques ou chercheurs du monde entier avaient succombé à cette croyance limitante, nous n'aurions jamais entrepris de conquérir l'espace, de fabriquer des téléphones portables ou de développer des équipements médicaux tels que l'IRM. Outre leur optimisme, les individus qui réussissent plus que les autres ont pour habitude de se créer des sous-objectifs facilement accessibles qu'ils célèbrent systématiquement une fois ceux-ci atteints. Cette démarche déclenche la production d'endorphines, véritables hormones du bonheur. Si vous sentez le découragement vous envahir, n'oubliez pas que vous recelez en vous de réserves insoupçonnées et inexploitées d'énergie et de ressources qui vous permettront de continuer à aller de l'avant. Appliquez la règle des 40%. Si vous vous sentez découragé après de multiples efforts, dites-vous que vous n'avez accompli que 40% de ce que vous devez faire et être capable de faire. Visualisez l'atteinte de votre objectif pour oublier votre lassitude et retrouver la force de continuer. La plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à se modifier lors des apprentissages, vous permet d'éduquer votre cerveau à accueillir les échecs comme autant d'opportunités de vous rapprocher du succès. Le sixième point à retenir évoque certains échecs qui ont mené à des réussites incroyables et inattendues. Des découvertes extraordinaires ont vu le jour grâce à des personnes qui ont fait preuve d'agilité, d'esprit et de persévérance. Loin de se désespérer, ces individus ont analysé ce qui, de prime abord, ressemblait à un échec, puis ont transformé celui-ci en opportunité. Les cas suivants sont des exemples de découvertes fortuites. Premier exemple, la découverte de l'Amérique. Alors qu'il cherchait un itinéraire plus court vers l'Inde et la Chine, Christophe Colomb fit une erreur de navigation de plusieurs milliers de kilomètres, qui lui permit de découvrir le continent américain. Deuxième exemple, la découverte de la vulcanisation. Charles Goodyear s'évertuait depuis plusieurs années, sans succès, à créer un caoutchouc à la fois souple et résistant. Lors d'une de ses expériences, un morceau de caoutchouc imprégné de soufre tomba dans son poêle. Furieux, Goodyear le jeta par la fenêtre. Le morceau de caoutchouc tomba dans la neige et en se refroidissant devint élastique et résistante à la fois. Troisième exemple, la création des bêtises de Cambrai. Émile Afchin, apprenti confiseur, laissa accidentellement tomber de la menthe dans les berlingots qu'il préparait, créant de manière fortuite une friandise qui fut plébiscitée par les clients de la confiserie. Et enfin, quatrième exemple, l'invention des post-it. Entre 1968 et 1974, Spencer Silver, un chimiste employé par la société 3M, travaillait sur de nouvelles formules de colle. Une des formules qu'il avait trouvées avait un pouvoir d'adhésion très limité, ce qui pour son entreprise ne présentait aucun intérêt. Un de ses collègues, chef de chœur dans une église, lui fit part d'un détail qui le contrariait lors de cette activité. En effet, le marque-page qu'il utilisait pour repérer ses psaumes ne cessait de tomber. Silver appliqua sa colle peu collante sur un morceau de papier que son collègue utilisa comme marque-page adhésif amovible. Le post-it était né. Depuis lors, il est devenu l'un des produits emblématiques de la société 3M. Le septième point à retenir conclut que vous identifier à votre échec est une erreur émotionnelle qui vous empêche de vous lancer. Nous pouvons exploiter nos échecs comme autant de leviers du succès en les utilisant comme une inertie et un mouvement vers le succès. Dans les arts martiaux, par exemple, les combattants appréhendent la chute ou le pas en arrière comme une opportunité d'envisager la difficulté sous un autre angle. La peur de l'échec nous paralyse et nous sommes envahis par un sentiment de culpabilité et de honte si nous échouons. Or, le droit de se tromper fait partie de l'apprentissage. Ne vous identifiez pas à votre échec, car ce que vous considérez comme un échec suscite peut-être l'admiration de votre entourage. Adoptez une nouvelle stratégie mentale qui consiste à accepter l'échec comme signe de votre capacité à faire preuve d'audace et à rechercher l'expérimentation en permanence. Et développez votre optimisme pour envisager l'échec sous un angle constructif et positif. Pour rappel, les points à retenir sont les suivants. Premier point, la peur de l'échec est profondément ancrée dans notre éducation et dans notre culture. Deuxième point, débarrassez-vous du poids des croyances limitantes et des superstitions. Troisième point, concentrez-vous sur votre objectif et tirez les enseignements en cas d'échec. Quatrième point, il est plus dommageable de ne pas prendre de risques que d'en prendre. Même les plus grandes entreprises ont connu des fiascos retentissants. Cinquième point, si vous faites toujours la même chose, ne vous attendez pas à des résultats différents. Sixième point, certains échecs mènent à des réussites incroyables et inattendues. Vous identifier à votre échec est une erreur émotionnelle et vous empêche de vous lancer.
Vous avez écouté un résumé Get Abstract. Pour plus de résumés sur ce thème et sur d'autres thèmes associés, consultez notre appli ou rendez-vous sur notre site web.